Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, ravi de vous retrouver, on est toujours sur Cause Commune, merci à toi, oui, toi là qui nous écoutes, merci à Abel Guggenheim pour sa chronique qui viendra à 14h25, merci aussi évidemment à Olivier Gréco et merci à vous auditeurs et auditrices. Un édito par semaine en introduction de Rayon Libre, c'est du boulot, quoi donc m'inspirer cette semaine, m'a fait me questionner, quel parallèle entre ce que je lis, vois, entends et le monde du vélo. Et puis cette semaine, j'avoue, j'avais le syndrome de la page blanche, j'avais bien deux ou trois sujets pour un édito, mais il devait encore mûrir un peu quand l'édito porte sur un sujet qui m'a agacé. L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas écrire à chaud, sinon shitstorm assuré. Les chiffres de Médiamétrie sont sortis la semaine dernière, et oui, mon édito de la semaine, il va parler de radio, et je vous parlais de Cause Commune. Donc les chiffres de Médiamétrie, France Inter grimpent et ils ont 6,9 millions d'auditeurs par jour en moyenne. Ils ont plus de 144 000 auditeurs par jour en un an. Europe 1, avec l'arrivée de Pascal Pro, sort la tête de l'eau. Pascal Pro ramène 84 000 auditeurs par jour. RTL, la deuxième radio la plus écoutée de France, elle perd 284 000 auditeurs avec quand même 5,2 millions d'auditeurs par jour. Et Cause Commune dans tout cela, et ben savoir si on a 20 000 ou 100 000 ou 15 millions d'auditeurs ne changera pas véritablement nos ressources. On ne fait pas de pub sur Cause Commune. On ne sait pas exactement combien nous avons d'auditeurs, parce que pour avoir accès aux chiffres de Médiamétrie, eh ben il faut payer. Et si on n'a pas les moyens de s'offrir Pascal Pro, d'ailleurs ça tombe bien, on sait pas bien ce qu'on fait avec Pascal, on n'a pas non plus les moyens de voir les chiffres de Médiamétrie. Et est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd des auditeurs? On le sait, on n'a pas envie de les perdre, et on pourrait tous les perdre parce qu'on cherche des fonds, on cherche des ronds, plus d'argent pour garder la fréquence. Alors oui, on a une campagne de financement en ligne sur Hello Asso pour nous aider à passer le trimestre qui vient. Finalement, évoquer la radio en édito pourrait être complètement lié au vélo. Le média radio ne se porte pas trop bien. Cause Commune, à part les finances, tout va bien. On a par contre besoin de soutien. L'industrie du vélo est au fond du trou. Les acteurs ont besoin de soutien. Paradoxalement, on n'a jamais vu autant de casques audio sur les oreilles des Français, jamais vu autant de vélos dans les rues des villes de France. Où est-ce que ça merde? Et les cafés vélo, ils se portent comment, hein? Quelle radio ils proposent à l'écoute de leurs clients, les cafés vélo? On va parler de café vélo autour d'un café avec Laurent Bellando et Julien Sommier. Ils viennent de sortir un très beau livre, Café Vélo, 20 lieux emblématiques de la culture vélo à travers le monde, qui est édité chez Tana Édition. Le comptoir du café vélo n'est pas tout à fait le comptoir de PMU du coin. Et encore, qu'est-ce qui se dit dans un café vélo? Quelle est la promesse d'un café vélo? Voyons tout cela avec Laurent Bellando et Julien Sommier, qui sont tous les deux au micro avec nous. Laurent est en face de moi et Julien, il est dans son café vélo qui s'appelle Style. Messieurs, bonjour et pardon pour cet édito un peu long. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'évoquer ce livre, le rôle du café vélo dans la ville ou la vie d'un cycliste, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être Laurent, à vous l'honneur. Alors Laurent, je vous entends pas, et voilà, je vous entends.
Ça y est. Micro est branché.
Bonjour Jérôme. Vous allez remonter le curseur. Bonjour Laurent.
Bah écoute, merci de m'accueillir dans ce très beau studio. Bah moi, je suis un auteur de livres sur les vélos, entre autres. Ouais. Ça va faire mon quatrième avec Café Vélo. Je suis aussi le reste du temps un directeur artistique passionné et je fais aussi les mises en page de mes livres. Enfin, c'est difficile de se présenter comme ça, il y a tellement de choses à dire.
Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que vous êtes quand même beaucoup sur un vélo, hein, quand vous n'êtes pas en train de prendre des photos ou d'usiter les cafés vélos.
Ah tiens, c'est vrai, oui.
notamment pour les auditeurs et auditrices, Laurent qui habite en Avignon est venu, alors pas à vélo jusqu'au studio de Rayon Libre, mais en tout cas, il est venu à vélo, le vélo est au chaud là-haut.
Ouais, j'ai pris le virus en 2012 et aujourd'hui, bah, je n'ai cessé de faire plus de vélo toujours, tout le temps.
Julien, vous nous entendez?
Moi, je vous entends très bien, vous m'entendez?
Ouais, on vous entend, le son est pas dingue, mais c'est pas grave. Julien, vous dites-nous un peu plus sur vous. Vous êtes responsable de cette boutique Style Coffee Shop?
C'est ça, moi je suis responsable de Style Coffee Shop et Cycleware, le premier café cycliste parisien. Je suis également un aventurier à vélo, je suis aussi, bah, comme Laurent, comme beaucoup, je pense, souvent à vélo quand je suis pas en train de travailler.
Julien, ma première question va se tourner auprès de vous. Je dis en édito que le monde du vélo, le monde de la radio se porte pas à merveille, le monde du vélo se porte pas à merveille en ce moment. Votre café vélo, le Style Coffee Shop, qui est situé rue Fontaine à Paris, comment il se porte?
Ah non, on se porte plutôt pas mal. On a avec le temps, ça va bientôt faire 8 ans, on a consolidé une communauté. Du coup, on est soutenu par une communauté française et internationale. C'est vrai que le monde du vélo, c'est pas au top cette année. Après deux belles années, 2021-2022, où les chiffres s'étaient un peu emballés, ça redescend un peu la consommation. Mais comme nous, on vend vraiment principalement en plus des cafés, des espaces cafés qui tournent vraiment bien, on vend de l'équipement pour cyclistes et pas vraiment des vélos complets. On s'en sort pas trop mal parce qu'on est plus dans la mode et l'habillement que dans le
vélo.
Vélo, la mécanique, c'est peut-être ça qui en pâtit plus dans le marché du vélo.
Merci, merci. Alors c'est vrai que le son est pas très bon, mais Laurent, selon vous, pourquoi on vient dans un café vélo?
On vient dans un café vélo surtout pour y retrouver la communauté. La communauté cycliste, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, ça peut être du vélo de route, du gravel, comme on voit dans le livre d'ailleurs. En fait, ce qui est passionnant dans le livre d'ailleurs, c'est que toutes les communautés sont différentes, ont toute leur identité, mais elles ont toutes ce point commun qui est cette espèce de camp de base qui est le café vélo. Après, moi, ce qui était un peu à l'origine aussi du projet de livre, et c'est ce qui a fait que j'en ai parlé à Julien et qui a fait qu'on s'est motivé à écrire ce livre, c'est que il y a aussi un côté aventure qui est que moi, quand je vais dans une ville où je sais qu'il y a un café vélo, même si je sais qu'il y a, enfin, si je sais pas qu'il y a un café vélo, je vais en chercher un, voir s'il y en a un pour aller rendre visite et découvrir un petit peu une autre facette du vélo, une autre facette des communautés cyclistes, dans cette ville. C'est un peu tout ça qu'on va chercher dans un café vélo, et on est souvent surpris de ce qu'on y découvre d'ailleurs, parce que même si on va chercher quelque chose en particulier, on découvre toujours de nouvelles choses. Moi, j'ai en tête un café, entre autres à Majorque, où c'est quasiment un musée à l'effigie de son fondateur qui a été champion du monde de piste. À chaque fois, c'est une découverte, quoi.
Alors, on reviendra après là-dessus, parce que justement, je pense qu'il y a aussi ce sujet-là, c'est est-ce que le succès d'un café vélo tient pas finalement en l'équipe qui est sur place. Tous les deux, Julien et Laurent, vous me parlez de rassembler ou de donner un espace pour que les communautés de cyclistes puissent se poser. Est-ce que un style coffee shop ou un café vélo tel que vous avez les vins que vous avez visités, que vous avez raconté dans votre livre, est-ce qu'il, selon vous, il rassemble toutes les communautés de cyclistes? On va commencer par vous, Julien.
Bah, du moins, ils essayent. Je sais pas si on y arrivera à rassembler toutes les communautés cyclistes. C'est vrai que le cycliste au quotidien, il a peut-être pas forcément besoin de ce genre de lieu, parce que c'est pour aller au travail, du coup il a peut-être pas forcément le temps, mais on essaye du moins dans l'équipement, dans l'offre qu'on propose à côté, ou alors même le samedi. Je pense que sur un samedi ou un jour de week-end, on rassemble quasiment toutes les communautés vélo. Du moins on essaye. Après, c'est sûr qu'on est situé dans le 11e, et il faut déjà, c'est un lieu de destination, il y a déjà l'envie, mais le vélo sportif, le vélo gravel, le vélo de voyage, je pense qu'on réunit pas mal nous chez Ski. C'est vrai que peut-être le côté vélo taf, on a un peu de mal à peut-être aujourd'hui, parce que la clientèle a changé. Les gens qui font du VAE sont peut-être pas forcément des cyclistes, mais des usagers du vélo. Et ils se déplacent plus qu'être. Je pense pas qu'ils se considèrent comme cyclistes, c'est plus des usagers à vélo. Du coup, mais on essaie en tout cas de rassembler un style vraiment toute la petite communauté vélo, tous les usagers du vélo, les passionnés de vélo. Mais aussi les gens qui font pas de vélo, parce qu'on est aussi un café de quartier, donc c'est un savant mélange.
Justement, là, c'est intéressant, un café de quartier, c'est aussi ce que vous avez vu, Julien ou Laurent, quand vous visitez ces 20 sites ou ces 20 lieux. Finalement, un café vélo, c'est aussi un café de quartier, ou un café de destination où on se retrouve, qu'on ait une passion pour le vélo ou pas, Laurent?
Ah, clairement, moi, c'est ce qui m'a marqué, les lieux qui ont le plus de succès, qui m'ont en tout cas laissé les meilleurs souvenirs, sont ceux qui justement arrivent à cette alchimie entre la vie communautaire du quartier et celle des pratiquants de vélo. Et d'ailleurs, le patron du café vélo à Ayrshire, à côté de Londres, nous expliquait que c'était amusant de voir les familles venir au début et petit à petit s'intéresser au sujet, et puis finalement s'acheter un vélo et finalement venir faire du vélo comme tout le monde. Il y a une vraie porosité entre les deux, et c'est quelque chose qu'on ressent aussi chez Style, hein. Julien, tu peux me confirmer, mais moi qui télétravaille souvent chez Style, il y a un vrai brassage des communautés de quartier et celles des cyclistes et même internationaux qui viennent souvent chez Style pousser la porte, quoi.
Est-ce que ça veut dire que ouvrir ou tenir un café vélo, c'est une façon un peu différente de militer pour plus de vélos dans les villes?
Je pense que ça a contribué à l'ouverture. Style est ouvert depuis bientôt 8 ans. Aujourd'hui, la place, le vélo, il a vraiment sa place. Donc, peut-être dans les premières années, aujourd'hui, je pense que la mairie et les gens, les habitants ont réussi à faire quelque chose d'impensable encore il y a 5 ans. Aujourd'hui, Paris est une ville où le vélo, ça fait partie des moyens de transport. Donc, mais peut-être dans d'autres villes où le combat est encore à mener. Enfin, quand je dis le combat, le militantisme est encore présent. Je pense qu'à Paris, ça s'est un peu calmé vu que le vélo a sa place.
Mais alors, est-ce que, par exemple, quand vous allez en Italie, où la place du vélo au quotidien est quand même très différente d'ici en France, quand vous allez en Italie ou même aux États-Unis, vous identifiez aussi une sorte de « Waouh, ils ont encore du chemin à faire sur la place du vélo dans la ville », Julien ou Laurent ?
En Italie, c'est vrai que c'est plus Laurent qui est spécialiste. Moi, pour répondre sur les États-Unis, je pense que les États-Unis, de toute façon, ne feront jamais de vélo au quotidien. Ça reste du vélo très sportif, ça reste du vélo de voyage ou sportif. Le vélo au quotidien, il ne marchera jamais dans la façon dont ils ont construit leur ville. Mais pour autant, par exemple, Los Angeles, qui est une des villes peut-être où il y a le plus de voitures au monde, enfin, j'imagine, le plus gros trafic, et faire du vélo à Los Angeles, c'est très safe. Hein. Il y a des pistes cyclables. C'est juste que les distances à parcourir sont énormes. Mais le vélo, le cycliste à Los Angeles est en sécurité. Par rapport à des villes européennes, peut-être, où les rues sont plus petites. C'est juste que c'est pas le moyen de transport le plus adéquat, parce que les distances à parcourir sont
énormes. Et Laurent, et après on lancera l'agenda. Mais Laurent, dites quand vous allez en Italie, par exemple.
En tout cas, ce qui est un point commun, c'est peut-être ce qu'on peut remarquer le plus facilement, c'est la cohabitation entre les voitures et les vélos. Et c'est assez variable effectivement d'un pays à l'autre. S'il y a un exemple en Europe, c'est l'Espagne où vraiment les cyclistes sont, enfin les automobilistes sont très respectueux des cyclistes et c'est un régal. En Italie, c'est un peu entre deux, c'est encore très moteur, sport motorisé quand même, dit, mais en même temps ils sont passionnés par le vélo et donc c'est une question à laquelle c'est assez difficile de répondre.
Mais justement, après l'agenda, on parlera un peu de toute cette ouverture culturelle que vous avez fait en allant visiter ces 20 lieux qui sont dans des pays différents, même s'il y a quelques lieux français malgré tout. Mais oui, est-ce que vous avez identifié des vraies différences de culture et de perception du monde du vélo? Mais là, pour l'instant, on est toujours sur Rayon Libre, on est toujours avec Laurent Bellando et Julien Sommier. Café Vélo, un livre qui est édité par Tana Édition, qui présente une sélection des cafés vélos les plus symboliques ou les plus intéressants, et pourquoi pas les plus mythiques qu'on peut trouver dans le monde. C'est le mi-temps de Rayon Libre, donc c'est l'agenda. Qu'est-ce qu'on fait quand on écoute Rayon Libre et qu'on est sur Cause Commune 93.1? Et ben, quoi faire, que voir, que lire ou pédaler cette semaine? Alors, il y a le salon Solutrans, du camion au vélo pour délivrer la ville. Le vélo semble plus le plus adéquat. C'est du 21 au 25 novembre à Lyon. On avait fait une émission sur le sujet il n'y a pas très longtemps. CIFAC, à partir du 24 novembre, au sein du nouveau pôle vélo de Tours, Make Friday Green Again. Il paraît que tous les détails sont en ligne. Vous retrouverez le lien sur la fiche de l'émission. Il y a une expo aussi en piste photo de Philippe Lopez à partir du 27 novembre. Galerie La Villa à des Arts à Paris 18 avec un vernissage le lundi soir 27-11. Venez, il y aura de la bière et une grosse envie de faire un don à Cause Commune. On en parlait en édito. Et bien, filez sur Hello Asso, tapez Cause Commune et vous trouverez la page. Sinon, bien sûr, comme je le disais, tous les liens sur le site sont sur le site de Cause Commune, rubrique Rayon Libre, podcast numéro 229. L'heure de la musique, je vous propose d'écouter Cristiano Magliano, je suis pas bien certain de le dire comme il faut, une petite reprise, Mille Amanti, on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite.
Che musica è, ma la sua bocca non la toccherò mai. Mille amanti a tutti, ho detto addio, meno all'amore mio. Mille amanti pieni di magia, per la mia pazzia, ma la sua bocca non la toccherò mai. Nei miei pugni adesso non ci stai, nei miei occhi non ti perdo mai, ma se penso a quello che mi fai, modern twist of my sobriety, modern twist of my sobriety, modern twist of my sobriety. Mille amanti tutti su da me, meno uno che più non c'è. Mille amanti ma che nostalgia, mai nessuno per la vita mia. Mille amanti amati senza un sì, troppo in fretta è così. Mille amanti adesso scorderò, ma perché io ci sarò. Nei miei pugni adesso tu ci stai, nei miei occhi non ti perdo mai, ma se penso a quello che mi fai, modern twist of my sobriety, modern twist of my sobriety, modern twist of my sobriety.
Et voilà, nous sommes de retour. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.fm. C'est à Paris, toujours Rayon Libre avec toujours Laurent Bellando et Julien Sommier qui normalement est encore là. On espère qu'on l'a pas perdu. Une discussion autour d'un café vélo sur ce très beau livre Café Vélo édité chez Tana Édition. Puisqu'on vient de s'écouter un morceau de musique, Julien, la musique chez Style ou Laurent quand vous visitez ces boutiques, ces cafés vélo. Est-ce qu'elle est importante la musique dans un café vélo?
C'est très important d'avoir une ambiance musicale. C'est vrai qu'on l'adapte en fonction du moment de la journée, de la clientèle. Mais c'est assez important de trouver la bonne vibe. En fonction, par exemple, le samedi, quand les titres reviennent, on va avoir quelque chose de plus animé. En semaine sous la pluie, quand les gens lisent un livre ou télétravaillent, ça va être un peu plus calme. C'est vraiment très important, très compliqué.
C'est compliqué. Ouais. Laurent, pareil, quand vous visitez vous les points de vente, les 19 ou les 20, vous vous rendez compte qu'il y a une vraie différence culturelle autour de la musique aussi? Alors Laurent, je te remets, voilà.
Mon micro.
Ouais, ça y est, pardon.
Alors là, clairement, moi je sèche parce que autant je suis vraiment passionné de musique, autant j'ai pas remarqué particulièrement de lien entre les cafés vélo et la musique, mais c'est vrai, il faudrait que j'y prête plus attention à l'avenir.
Eh ben, à l'avenir pour le tome 2. Est-ce que vous avez noté des vrais... Alors, on en parlait un peu avant la pause musicale, mais est-ce que vous avez noté des vraies différences culturelles d'un café vélo à un autre? Et quand je dis culturel, c'est vraiment la ville ou le pays ou la culture vélo locale. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Laurent, par exemple.
Clairement, en fait, c'est ce qui nous a le plus plu, d'ailleurs. Ça a été la belle découverte de ce livre. C'est que chaque café a son identité, sa culture. Et c'est vrai que, en fait, on voyage vraiment à travers ces lieux parce que ils sont tous empreints d'une façon différente de faire du vélo. C'est un peu ce que je disais en introduction tout à l'heure. C'est que il y a tellement de choses à dire.
Mais est-ce que c'est une étude un peu sociologique de la place du vélo dans un pays quand on chronique des cafés vélo un peu partout dans le monde?
C'est un peu ça. C'est un peu comme disait Laurent, chaque café est unique. C'est un peu un mapping, une carte. Enfin, chaque café a sa propre carte postale. En fait, chaque pays a vraiment sa façon de voir les choses. Après, ce qui les réunit, c'est l'usage du vélo. La pratique, elle est plus ou moins sportive, plus ou moins utilisé pour le transport des gens, pour aller au boulot ou pas. Mais c'est vraiment assez unique, ouais, par exemple.
Et l'amour du café aussi.
Oui, après, il y a tout l'amour du café, le lieu de destination, le tiers-lieu. C'est vrai que ça regroupe à chaque fois le café, la spécialité et le vélo. Mais la pratique du vélo, elle est assez, assez, bien qu'elles soient assez similaires, dans le sens où c'est le même moyen de train, c'est le même vélo, c'est le même médium, chaque pays a vraiment ses. Par exemple, un exemple en Belgique, c'est très sportif, le vélo est très porté sur le sport, le niveau est assez haut, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de champions qui reviennent de Belgique. Il y a des pays où c'est un peu plus cyclotourisme, la France, on a une grosse fédération vélo, mais il y a une grosse partie du vélo qui est de loisirs.
Ouais.
La Belgique est un peu moins loisir, on est quand même beaucoup sur le sport, le vélo pour le sport, on retrouve ce genre de différence.
D'ailleurs, une anecdote, c'est qu'en Belgique, ils nous ont littéralement douchés. Hein. On avait programmé un week-end pour faire notre reportage. Et en fait, ça a été un week-end où il a plu, mais je crois qu'on n'aurait jamais sorti un vélo en temps normal. Mais eux étaient motivés. Du coup, on a quand même pris les vélos, mais ça reste un souvenir.
Ouais, la Belgique roule par tous les temps. Par exemple, la Hollande, c'est pareil, ça fait très entraînement, très sport. Enfin, c'est plus sportif que ce que je pensais. Et après, il y a des endroits... par exemple, Paris, c'est moins sportif. C'est quand même une ville qui n'est pas une terre de cyclistes, mais les gens font quand même beaucoup de vélo. Et c'est plus du vélo... ça va être beaucoup de vélo de voyage. Hein. Par exemple, la clientèle, on a beaucoup de gens qui partent pour voyager ailleurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui font du vélo à Paris, mais pas forcément à Paris.
On l'a compris qu'il y a des vraies différences. Est-ce que là vous évoquez un mot qui est quand même hyper important qu'on aurait presque pu oublier, c'est le mot café. Le café, alors vous avez une préface de Lachlan Morton dans votre livre. Le café, c'est un élément de la culture du cycliste, hein, Laurent.
Ah oui, complètement. Mais là, je crois que pour le coup, c'est vraiment Julien qui pourrait en parler le mieux parce que
ouais, Julien, vous avez une formation de
j'ai une formation de barista.
Voilà, je cherchais le mot.
J'utilise au quotidien. C'est vrai, le café et le vélo, c'est intimement lié, je pense, pour plusieurs. Il y a déjà, pour la raison que la caféine, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Hein. Si on prend 2-3 cafés, on va les rouler, c'est vrai que ça fonctionne. C'est un excitant naturel, en fait. Ensuite, il y a le côté café pour le côté où après un ride ou avant un ride, on se réunit.
Ouais, donc l'aspect social, en fait, l'aspect on se retrouve autour d'une tasse de café ou d'une bière, sinon.
Voilà, et après, il y a aussi l'aspect un peu... Enfin, les cyclistes, c'est des gens qui aiment quand même beaucoup les belles choses, leur vélo, la mécanique. Et boire du bon café, on fait attention à quand même ce qu'on...
Est-ce que vous êtes en train de dire, Julien, et peut-être que Laurent pourra confirmer ou pas, mais pour pousser la porte d'un café vélo, il faut quand même avoir un peu une sorte de... être un peu un esthète.
En principe, dans les cafés vélos, les gens aiment beaucoup le café, c'est du bon café. Donc, faut peut-être... si on n'est pas un esthète, je pense qu'on devient un esthète du café, en poussant ses portes. Parce que dans les cafés vélos, les gens font attention à ce qu'ils proposent en termes de produits, aussi bien à manger qu'à boire. Et on retrouvera toujours des bonnes boissons, qu'elles soient café ou non caféinées. Il y a toujours cette recherche de bons produits.
Clairement, ça a été mon cas. Je ne connaissais pas grand-chose en café, à part que j'aimais ça. Et grâce à Julien, grâce à toute cette culture qu'il y a autour de ces lieux, c'est vraiment, on n'imagine pas à quel point le café est lié à ces lieux café-vélo. Moi, ça m'a permis de découvrir tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je suis devenu vachement plus exigeant sur le café que j'ai envie de boire. Mais c'est pas une question d'être esthète, c'est plus d'être, je pense, plus une question d'être passionné. Et je pense qu'effectivement, les cyclistes sont des gens qui deviennent très vite passionnés. Et sans doute, c'est lié à cet engin-là qui nous permet un petit peu d'être la tête au vent et de voyager, de se dépayser en quelques coups de pédale. Et je pense que tout ça, c'est lié, en fait. Et c'est pour ça que le café et le vélo ont tel lien.
Oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que, encore une fois, quand vous parlez de passionné, ça va quand même à l'inverse de ce que vous me racontiez, quand quelqu'un est dans un café vélo, il est implanté, c'est quand même, ça reste aussi un café de quartier.
Mais cette passion, en fait, elle se transmet,
L'un n'empêche pas l'autre, les gens, ils poussent la porte, après, un café, ça reste quand même quelque chose d'assez accessible, c'est juste qu'il sera fait avec soin par rapport à... un PMU du coin, quoi, qui est le café pour lui et pas son...
Ouais.
Enfin, ils font du café, mais c'est pas...
C'est son produit d'appel, entre guillemets.
Ouais, c'est plus du... Le café en France, c'est pas...
Ah, on l'a perdu
encore, alors on va...
Mais le café en France, c'est dans les brasseries, il n'est pas le meilleur café qu'on peut boire.
Bon, alors je vais vous poser la question à tous les deux, et après, je vous pose la question maintenant, on écoute la chronique d'Abel, et puis vous aurez chacun une petite minute pour répondre. Qu'est-ce qui donnerait, quelle serait la bonne raison de pousser un café vélo pour un de nos auditeurs, une de nos auditrices qui ne connaît pas, qui n'est jamais allé? Et puis la deuxième, c'est pourquoi ce livre, il faudrait le glisser sous le sapin de Noël. Alors je vous laisse vous répartir là, qui répond sur quoi. En tout cas, on est toujours avec Laurent Bellandeau et Julien Sommier qui nous présentent un très beau livre, Café Vélo, 20 lieux emblématiques de la culture cycliste à travers le monde. Et puis là, on va s'écouter Abel Guggenheim parce qu'il est 14h25. Abel Guggenheim, il va nous parler de l'hypomobilité au vélo en passant par le tramway, et puis nous pose encore la question, et le piéton là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait du piéton? Abel, c'est à toi.
Bonjour. Vous l'observez bien sûr, la conflictualité entre les utilisations d'espaces publics par diverses catégories d'usagères et d'usagers pose aujourd'hui problème. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je souhaite aujourd'hui replacer ce sujet dans l'évolution historique sur une période longue. Je prends mes exemples à Paris, mais il en est évidemment assez largement de même dans d'autres villes en France. Il n'y a eu pendant longtemps dans l'espace public que des personnes à pied et des véhicules à traction animale, en particulier hippomobiles. Du temps des grands travaux d'Haussmann, cet espace était largement occupé par des chevaux et des véhicules tirés par des chevaux. Mais en quelques années, au tournant des 19e et 20e siècles, les chevaux ont, avec leur lourde logistique, disparu du paysage, ont été remplacés en particulier par des tramways qui se sont rapidement développés pour atteindre leur apogée au début des années 1920. De nombreuses rues parisiennes comportaient alors des rails qu'on redécouvre parfois à l'occasion de travaux. Vous trouverez sur le site de l'émission le lien vers une carte du réseau des tramways parisiens à son extension maximale. Mais en quelques années, tout aussi brusquement qu'ils avaient remplacé les véhicules hippomobiles, les tramways ont été démantelés et ont été remplacés par les autobus et les automobiles. C'est ensuite l'automobile qui se développe, prenant progressivement toute la place disponible, reléguant les piétons sur des trottoirs latéraux de plus en plus étroits. Vous trouverez sans difficulté des photos montrant de gigantesques embouteillages, face auxquels, ceux mis en avant aujourd'hui par des adversaires des évolutions actuelles, font bien pâle figure. Mais aussi des voitures garées par dizaines ou par centaines sous la tour Eiffel, sur la place de la Concorde, dans la cour du Louvre, sur les quais bas de la Seine, et en de nombreux autres endroits rendus, depuis longtemps ou depuis peu, à des utilisation plus urbaine. On peut dater la fin de cette expansion continue au milieu des années 70. La voie Georges Pompidou est inaugurée en 1967, le boulevard périphérique bouclé en 1973, mais la voie express qui devait être sur la rive gauche l'équivalent de la voie Georges Pompidou sur la rive droite est abandonnée en 1974. Sur une vingtaine d'années de statu quo, puis au milieu des années 90, c'est le début du recul progressif mais régulier de l'automobile et la reconquête des espaces ainsi libérés au profit des piétons, mais surtout des cyclistes. En parallèle, le taux de possession d'automobiles par les Parisiennes et Parisiens décroît régulièrement lui aussi. Je ne sais pas si les modifications antérieures, dont certaines se sont faites dans des laps de temps relativement courts, se sont déroulées dans le calme ou dans le bruit et la fureur. La dernière que j'ai vécue n'a pas été sans poussée de fièvre. Les réseaux sociaux n'étaient pas là comme aujourd'hui pour les relayer et les amplifier, mais les critiques contre les aménagements cyclables réalisés par Jean Thibéry puis par Bertrand Delanoë n'était pas moins vive dans les médias écrits et audiovisuels que celle d'aujourd'hui contre Anne Hidalgo. Une meilleure prise en compte des piétons, aujourd'hui nécessaire, se fera-t-elle sans difficulté? Nous sommes sans doute à un moment de bascule analogue à ceux que nous avons connus auparavant. À lundi prochain.
Merci beaucoup Abel. Alors Julien, j'ai décidé que c'est vous, pour vous la question, pourquoi pousser la porte d'un café vélo?
Pourquoi pousser la porte d'un café vélo? Eh bien, pour découvrir tout ce monde, en fait, pour le cycliste, je pense que n'hésitez pas. Pour les gens non cyclistes, ça peut être simplement pour découvrir une pratique, un sport ou un loisir. Pourquoi pas tourner les pages d'un magazine, on apprend plus sur le voyage à vélo et peut-être trouver...
Ou apprendre une nouvelle façon de se déplacer, peut-être. Laurent, Laurent, pourquoi ce livre devrait être dans toutes les bonnes bibliothèques d'un bon cycliste qui se respecte?
Avant ça, je voudrais dire que c'est vache comme question, parce qu'il y en a tellement des bonnes raisons de pousser une porte de café vélo. Mais bon, bref. Alors, pourquoi...
Parce qu'il nous reste, 10 secondes.
Oui, allez, en 10 secondes, parce que moi, j'aime bien être mon propre client pour mes propres livres. Et ce livre, à chaque fois que je l'ouvre, ça me donne envie de retourner faire du vélo dans une des destinations du livre. Et je pense que c'est la vraie valeur ajoutée de ce livre, c'est qu'il donne envie d'aller faire du vélo.
Et ben voilà, le dernier mot était pour Laurent Bellando. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans Rayon Libre.
Rayon Libre.